À voix nue. Cette semaine, Jules Crétois rencontre Catherine Kokeri-Vidrovitch. Ce soir, Doran au fleuve Congo.
Bonsoir Catherine Kokeri-Vidrovitch.
Bonsoir.
Vous êtes historienne de l'Afrique, une pionnière de l'histoire de l'Afrique. Hier, nous avons parlé de votre enfance, dont une partie s'est déroulée dans la clandestinité, vous qui êtes née dans une famille juive quelques années avant l'occupation. Aujourd'hui, nous allons sauter un peu dans le temps, nous allons rentrer dans le vif du sujet et parler de votre rencontre réelle avec un continent, l'Afrique, qui va vous occuper toute votre vie. Alors, on aura encore l'occasion de parler de vos nombreux voyages. Ici, nous allons nous intéresser aux premiers d'entre eux, en Algérie et au Gabon notamment, qui vont vous marquer, d'autant plus qu'ils se déroulent à des périodes très particulières, alors que les nations africaines gagnent leurs indépendances. Le premier voyage, ça n'est pas en Afrique subsaharienne, c'est au Maghreb. Vous rejoignez votre mari, que vous avez rencontré alors que vous étiez tous les deux étudiants, je crois. Vous l'épousez en 1958, quelques semaines avant qu'il soit appelé à rejoindre Oran pour son service militaire.
Oui, absolument.
Vous avez un premier souvenir, peut-être direct, sensoriel, de cette traversée de la mer.
Nous nous sommes rencontrés, comme se rencontrent souvent les étudiants. Il était géographe au bal de l'Institut de géographie de Paris. Et nous avons, nous sommes tombés amoureux au bout d'un certain temps. Et nous avons vécu ensemble jusqu'à sa mort à 80 ans, à 53 ans de vie commune, admirable, je dirais. Enfin, évidemment, 53 ans, c'est pas un long fleuve tranquille, mais il a toujours été très. Il m'a toujours beaucoup soutenu dans tout ce que je faisais. Et quand j'hésitais à faire quelque chose, chaque fois il me disait si, si, vas-y, vas-y. C'est-à-dire que mon côté aventurier, si vous voulez, il l'a encouragé, il l'a soutenu, ce qui à l'époque était quand même tout à fait remarquable pour un homme normal, disons, entre guillemets. Et je pense que dans le livre que j'ai écrit, j'en ai pas assez parlé parce que sans ma mère et sans lui, j'aurais pas fait ce que j'ai fait. Et ça, c'est sûr. Tout en m'attribuant évidemment le mérite de l'avoir fait. Donc, c'est. Et effectivement, nous nous sommes mariés, je crois, le 28 juillet. Nous sommes partis en vacances pendant un mois. Et le 2 septembre, il est parti au service militaire, 28 mois et demi. À l'époque, parce que c'était la guerre d'Algérie, et on plaisantait en disant il faut être Kudjat pour être réformé. Lui, il n'était pas Kudjat, heureusement, mais il était très myope et il était à l'époque, ça lui a passé ensuite, asthmatique. Donc, normalement, il aurait été réformé, mais là, il avait été classé, et ça me soulageait beaucoup pour l'Algérie, inapte opérationnel. C'est-à-dire qu'en fonction, il était agrégé de géographie, en fonction de ses diplômes, il avait été affecté au service cartographique de l'armée à Oran, et donc, au cours de son service militaire, il a passé une année à Oran, j'ai mis à profit les congés, moi j'étais jeune prof de lycée, les congés scolaires pour aller le voir à Oran. Et là, je me suis trouvé dans un milieu que je ne connaissais pas du tout, je ne connaissais pas du tout l'Afrique, dans un lieu où les colonisés, parce qu'on était encore pendant la guerre d'Algérie, j'ai eu cette révélation tout à fait évidente, les colonisés, ils étaient occupés. Moi, j'avais été occupée. On m'avait pas reconnu la nationalité française, j'étais considérée comme une étrangère dans mon propre pays. Les Algériens, c'était la même chose.
Voilà, vous avez raconté que...
Quand je disais ça à mes collègues, la colonisation, c'est une occupation. Ça scandalisait, parce que l'occupation, avec un O majuscule, c'était l'occupation française par les nazis. Toute conquête se traduit par une occupation. Et cette atmosphère de clandestinité soupçonnée, mais pas vraiment évidente, évidemment, parce qu'on ne faisait pas partie des clandestins en Algérie, j'ai retrouvé quelque chose.
Ça vous a rappelé?
J'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis dit, il faut étudier ça. Alors, le hasard a fait qu'en réalité, j'ai rencontré un directeur de recherche qui cherchait un jeune chercheur ou une jeune chercheuse qui a été moi sur l'Afrique subsaharienne. À l'époque, on disait l'Afrique noire, maintenant on dit l'Afrique subsaharienne, qui est moins raciste, connoté racisme par la couleur, évidemment. Et je connaissais strictement rien. J'avais aucune attache, j'avais pas d'ancêtre officier colonial, rien du tout, mais je me suis dit, pourquoi pas. Je connaissais tout petit peu l'Afrique du Nord que je venais de découvrir, pas du tout l'Afrique subsaharienne. Et justement, c'était un champ à découvrir, et un champ à découvrir d'autant plus vaste que il était étudié par les ethnologues et les anthropologues, c'est-à-dire des chercheurs qui observaient des sociétés considérées comme autres, étrangères, différentes. On est un peu revenu là-dessus depuis, parce qu'on s'est aperçu que tous les peuples vivent des histoires, que finalement les histoires sont toutes, justement, font partie de l'histoire, quel que soit le peuple considéré. Mais à l'époque, c'était pas la même chose, et comme vous le disiez, moi j'ai beaucoup entendu dans le début de ma carrière, ah bon, vous faites de l'histoire de l'Afrique, il y a donc des sources, il y a une histoire, il n'y a pas d'histoire. Les universitaires, y compris, confondaient écrire l'histoire et puis vivre l'histoire. Tous les peuples vivent une histoire. Elle n'est pas nécessairement travaillée et écrite, ce qui était le cas de l'Afrique subsaharienne, en particulier en langue française. Donc ça m'a beaucoup plu. Et j'ai été formée à l'école des pratiques des hautes études par des spécialistes, un petit peu un historien, mais surtout sociologue, anthropologue, ceux qui avaient déjà travaillé sur la question, puis il fallait que j'y aille.
Alors c'est ça, il y a donc un premier voyage en Algérie, et puis il y a un deuxième voyage en Afrique subsaharienne qui arrive assez vite, c'est dans le cadre de vos études, vous avez des affaires. En 1965, alors vous avez 30 ans tout juste, vous laissez à votre mari la garde de vos deux enfants, et vous partez sur les traces de l'explorateur Pierre Savornier de Brazza, qui lui avait voyagé là un siècle plus tôt environ. C'est votre premier voyage d'historienne en quête de sources et d'archives.
Oui, absolument. Alors, ça, c'était ma... Il y avait deux thèses. Il y avait la thèse de troisième cycle et la thèse d'État. La thèse de troisième cycle était sur une mission d'exploration, la mission d'exploration de Brazza de 1883-85, où il avait créé, en fait, la colonie dite alors du Congo français, qui deviendra l'Afrique équatoriale française un peu plus tard. Donc, il avait exploré le fleuve Ogoué, le fleuve Congo, avec des étapes. Et je devais inventorier toutes ces archives et reconstituer les étapes. Et je m'étais dit, bon, ben, je vais faire un petit peu comme lui. Seulement, évidemment, lui faisait ça à pied et en pirogue. Je ne pouvais pas le faire par la route parce qu'il n'y avait pas de route, le climat équatorial.
Le voyage prend des airs d'aventure. Hein.
Ah oui, absolument.
Il faut des petits avions, des pirogues, des 4x4 sur des pistes de latérite. C'est aventureux.
Oui, c'est une époque où le tourisme n'existait pas, en particulier en Afrique équatoriale, que les routes n'existaient pas parce que le climat équatorial détruisait les routes, c'était sous les pluies de l'argile où les camions et les voitures s'enferraient, enfin c'était n'importe comment des 4x4, c'était pas question de voyager autrement, ou bien par la rivière. Ou bien, alors, c'était l'époque où un jeune aussi entrepreneur avait créé une ligne aérienne interne, Trans-Gabon. Il avait épousé d'ailleurs la comédienne Marina Vladi à cette époque-là. Et il y avait donc des petits avions absolument invraisemblables. Je suis monté une fois dans un coucou biplan entoilé qui datait de l'avant la Deuxième Guerre mondiale. Il disait, ce qui est important, c'est de très bons pilotes, un très bon entretien des avions très costauds, et le reste suit.
Oui, parce que quand vous voyagez là-bas, vous voyagez pour étudier l'histoire, mais vous aussi, vous êtes témoin de la transformation de ces pays, de ces économies. Vous assistez, par exemple, à la mise en production des forêts d'Afrique centrale.
Alors, ce qui m'a là aussi confirmé dans ce que je voulais chercher, c'est en 65, c'était encore très fort, 5 ans après les indépendances, le racisme. Le racisme de ce qu'on appelait les expatriés, c'est-à-dire les blancs qui étaient restés, les forestiers en particulier. C'était une époque qui résultait de tout ce qu'on avait enseigné en France depuis 2 ou 3 siècles, que les blancs étaient supérieurs, que les noirs étaient inférieurs. Alors on avait découvert que c'était pas vrai, effectivement, mais n'empêche que c'était toujours dans les mentalités, en tous les cas dans les mentalités des blancs d'Afrique.
Ça, vous allez le retrouver dans tous vos voyages des années 60, au Gabon, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, partout où vous allez vous retrouver ce racisme.
Oui, alors d'une certaine façon, J'avais besoin de rencontrer des expatriés parce qu'ils avaient les moyens, parce qu'ils étaient très gentils avec moi, ils cherchaient à m'aider justement, ils se disaient « je veux aller à tel endroit ». Alors ils trouvaient ce qu'on appelait une occasion à l'époque. Alors l'occasion, c'était un forestier qui avait son petit avion 4 places et qui allait sur son chantier. Donc j'ai fait pas mal de choses comme ça. Enfin, j'ai effectivement fait un petit peu... sans trop de risques d'ailleurs, j'étais inquiète au démarrage, je me disais qu'est-ce qui m'attend, parce que je suis partie toute seule avec mon sac à dos, ma moustiquaire, le filtre portatif pour l'eau, parce qu'il fallait beaucoup se méfier de l'eau, et puis à Dieu va, on va voir. Et je me suis rendu compte qu'en étant recommandée par des chefs d'entreprise français de France, ça m'ouvrait toutes les portes du côté des expatriés, et que du côté africain, ils étaient tout à fait étonnés de me voir, et très gentils, en me disant bah, « il faut l'aider, parce qu'elle est toute seule ». Et ça, par conséquent, j'ai jamais eu le moindre problème. Jamais eu le moindre problème, alors que quand je suis partie, j'étais un petit peu inquiète quand même. Je me disais « qu'est-ce qui m'attend ?»
C'est ça, et ça, Catherine Kokri-Vidrovitch, vous y prenez goût dès ce premier voyage en 65 au Gabon, vous prenez goût à ces petites aventures ?
Oui, absolument. Moi, ça m'intéressait. Enfin, il y a des hauts et des bas. Vous savez, le soir, dans des étapes où il n'y a pas d'électricité, c'est pas très rigolo. Mais ça, on oublie parce que on voit tellement de choses nouvelles, on rencontre tellement de gens intéressants, y compris dans leurs personnages. Alors, les chantiers forestiers à l'intérieur de la forêt où j'ai été reçu, c'était extraordinaire. 200 personnes, des bûcherons qui sont là pendant un an et demi, deux ans, qui ne bougent pas, avec simplement le chef de chantier qui vient avec son petit avion une fois tous les trois mois pour apporter les médicaments et les papiers nécessaires. Et puis deux blancs, le chef de chantier et le chef des mécaniciens. Donc tout un fonctionnement, si vous voulez, qui m'intéressait beaucoup parce que je travaillais aussi sur ma thèse d'état à ce moment-là, qui était sur l'exploitation coloniale justement dans la première moitié, dans le premier tiers du XXe siècle, et que ça n'avait dans les années 65, évidemment les moyens étaient quand même différents, bien sûr, mais ça n'avait pas tellement changé. Donc pour moi c'était tout à fait intéressant d'explorer.
Et ces sociétés, Catherine Kokri-Vidrovitch, où les Français sont encore très présents, il y a du racisme, vous les qualifiez de néocolonial.
Oui, c'est tout à fait néocolonial. C'est le terme utilisé par Kwame Nkrumah, qui était le président du Ghana indépendant. Néocolonial dans la mesure, alors particulièrement vrai en Afrique équatoriale ex-française, parce que l'enseignement avait été très limité. Le diplôme dont rêvaient les petits Gabonais ou Congolais jusqu'à la fin de la colonisation, c'était le certificat d'études. Et il y a quoi ? Il y a 4-5 personnes qui sont allées au-delà pour des raisons personnelles, parce qu'ils étaient très doués. En Afrique équatoriale, c'est un peu différent en Afrique occidentale. Donc il n'y avait pas de personnel africain. C'était normal, si vous voulez, que la coopération technique soit très importante. Tous les postes de direction étaient occupés par des blancs, le plus souvent d'anciens fonctionnaires coloniaux, considérés comme connaissant bien le terrain, ce qui était tout à fait vrai, et qui continuaient à officier. Moi, j'ai rencontré deux ou trois fois un sous-préfet ou un administrateur ou un conseiller du ministre, en particulier au Gabon, qui m'ont dit « ben, je suis très fier ». Ça m'est arrivé deux fois, ça. Une fois au Côte d'Ivoire, une fois au Gabon. « Je suis très fier parce que j'ai terminé la route que mon père, administrateur colonial, avait commencé il y a 30 ans ou il y a 40 ans ». Donc, il y avait une espèce de continuité dans le néocolonialisme que j'ai découvert, parce que moi, tout ça, c'était des découvertes tout à fait intéressantes. Et ce qui m'a aussi beaucoup intéressé dans ma carrière, c'est de voir disparaître progressivement ces restes coloniaux très forts. De 5 ans en 5 ans, particulièrement en Côte d'Ivoire, je suis allé à peu près tous les 5 ans en Côte d'Ivoire, et chaque fois, je voyais une différence. Au début, il n'y avait aucun contact, sauf professionnel, entre noir et blanc. Après, on voyait quelques riches hommes d'affaires ivoiriens dans les hôtels des blancs, disons. Et 10 ans après, enfin dans les années 1980, c'est-à-dire quand même 20 ans après l'indépendance, là, la mixité est devenue évidente. Et ce dont je parle n'existe plus. Existe un petit peu encore dans les têtes, ou dans certaines têtes, mais n'existe plus. Donc j'ai vu vraiment toute cette évolution, et cette évolution a pris du temps. Et ça, ça m'a aussi beaucoup intéressée.
Alors, il y a Catherine Kokrividrovitch, donc on est toujours dans cette période, vos premiers voyages, les années 60. Vous êtes historienne, c'est aussi la découverte, en fait, de votre, je ne sais pas si on dit ça comme ça, terrain d'étude. Par exemple, vous allez voyager au Bénin, vous allez aller à Abomey, c'est la capitale de l'ancienne monarchie dahoméenne. Alors, sans doute... Faut-il préciser que récemment, entre 2020 et 2022, on a beaucoup parlé des œuvres et des trésors royaux d'Abomey, puisqu'une vingtaine d'objets, un hôtel portatif, des portes monumentales, des statues, ont été restitués au Bénin par la France. Vous, historienne Catherine Kokrividrovitch, quand vous arrivez dans cette ancienne capitale, qu'est-ce que vous ressentez ?
Pour moi, c'était très important, parce que j'avais été recrutée en France sur un article qui m'avait été demandé par mon directeur de recherche, Henri Brunswick, sur l'histoire du Bénin, c'est-à-dire du Dahomey, qui s'appelait Dahomey à l'époque coloniale. Et je l'avais écrit avec des sources écrites en France, mais j'étais jamais allé, et je me disais, je vais quand même vérifier si j'ai pas écrit de bêtises. Donc je voulais aller à Abomey, j'ai pu y aller, j'avais rencontré un géographe béninois d'agrégé de géographie, il n'y en avait pas beaucoup encore au début de ma carrière de personnalités scientifiques africaines qui s'étaient arrangées pour que je puisse partir en voiture, c'était à peu près à 150 km, moins de 200 km à Abomey, et là j'ai rencontré un jeune béninois, enfin, c'est, on disait encore dahoméen à l'époque, qui avait été formé par le professeur Lombard, qui gardait le palais, qui me faisait visiter.
Le palais,
je connaissais très bien.
Vous pouvez nous le décrire, Catherine Kokrividrovitch. Je n'ai aucune idée d'à quoi ça ressemble. C'est de la terre
cuite. Ce sont des grandes. Alors, on disait que le vocabulaire colonial, c'était des cases, des bâtiments sans étage, avec sur la façade beaucoup de bas-reliefs, de sculptures. Tout ça, pas très impressionnant, en réalité. Et à l'époque, très peu restauré. Plus ou moins dans la forêt.
Mais très différent tout de même, Catherine.
C'était pas impressionnant, mais c'était intéressant, vraiment intéressant. Et le jeune homme en question, il aimait beaucoup faire visiter et expliquer ce qu'on appelait les AC, c'est-à-dire les objets sacrés dont il en restait quelques-uns. Il ne restait pas énormément de choses à Abomey. Mais enfin, j'avais quand même vu, je suis restée 2 jours, j'ai écouté ses explications. Et quand je suis rentrée, à Cotonou, dans la capitale économique, c'est un chercheur de l'Orstom, qui est l'ancienne IRD, qui m'a dit « Ah bon, ça vous a intéressé, toutes ces histoires racontées par ce bonhomme ?» Je me disais « Mais quand même, c'est très important
!» Oui, Catherine Kokrividrovitch, je vous parlais d'Abomey, parce que c'est peut-être pas là que vous le découvrez, en tout cas en théorie, mais c'est le lieu aussi de l'histoire d'une Afrique précoloniale.
Absolument, parce que Abomey, c'était c'est la capitale du royaume d'Abomey, qui apparaît courant au XVIIe siècle, qui se développe beaucoup au XVIIIe siècle. Moi, j'avais écrit son histoire au XIXe siècle, et il va disparaître avec la colonisation. Donc c'est vraiment un lieu historique important. Et c'était... Disons, effectivement, vous avez raison, mon premier contact avec de l'histoire d'avant la colonisation.
Parce que ces premiers voyages, on sent qu'ils sont formateurs. Vous y découvrez donc ce continuum colonial, néocolonial, le racisme. Vous voyez l'histoire précoloniale de l'Afrique. Je remonte un petit peu dans le temps. Dans la foulée de votre voyage à Oran, il y a un autre exercice qui, je crois, vous amène un petit peu à penser autrement, peut-être à décentrer votre regard occidental, c'est l'apprentissage de l'arabe.
Oui, alors je pensais, effectivement, alors l'apprentissage de l'arabe, parce que je pensais, au démarrage, découvrant l'Algérie, je me suis dit, je vais travailler sur l'Afrique du Nord. Mais pour travailler sur l'Afrique du Nord, il faut que je connaisse l'arabe. Donc je suis rentré en France et j'ai fait, au Langso, 3 ans d'arabe. Au bout de 3 ans, j'étais d'un niveau encore fort bas, mais j'ai passé quand même un certificat d'arabe littéral, dont j'étais très fier. Et puis là-dessus, j'ai rencontré Brunswick, j'ai choisi de travailler sur l'Afrique équatoriale. J'avais plus du tout besoin de l'arabe. J'étais à un niveau d'arabe où il fallait que je travaille beaucoup pour vraiment rentrer dans la langue. Mais ça m'a fait découvrir la langue. ça m'a fait découvrir à quel point elle est structurellement différente des langues dites indo-européennes. Et je me suis dit, quand on a une langue de ce genre-là, l'arabe ou une autre langue africaine, on ne pense pas tout à fait la même chose que quand on a une langue de type européenne, parce que la langue est construite différemment. Et c'est quelque chose de très important. Alors, je n'ai malheureusement pas beaucoup poussé plus loin, parce qu'en Afrique équatoriale, il y a énormément de langues. Au Gabon, il y a, je crois, 600 ou 700 langues, et là-dessus, il y en a au moins 100 ou 200 qui ne se comprennent pas les uns avec les autres. Et ce qui a fait que le français, où une langue locale dominante est devenue la langue de communication. Donc, effectivement, même la communication entre les gens, entre les hommes, parce que les femmes ne parlaient pas encore, n'étaient pas encore allées à l'école, ou très peu, c'était le français. Donc, ça ne m'a pas poussé à continuer dans l'étude des langues, et c'est dommage. Après, j'ai beaucoup travaillé sur le Sénégal, où à l'époque aussi, la langue de communication, c'était le français, mais j'ai vu progressivement, y compris dans les catégories intermédiaires, disons la catégorie bourgeoise et cultivée, le Wolof prendre le pas sur le français. Et je me suis dit, j'ai essayé d'apprendre le Wolof, mais c'était trop tard. J'arrivais plus à enregistrer, disons.
Mais en tout cas, Catherine Kokri-Vidrovic, intellectuellement, voilà, cet apprentissage de l'arabe, comme ses premiers voyages, il vous forme intellectuellement, il vous fait découvrir d'autres manières de penser, d'autres
Absolument,
manières.
Absolument, d'autant plus que, comme c'était relativement exceptionnel à l'époque, ceux qui avaient passé ce certificat d'arabe littéral, on devait être une vingtaine, ont bénéficié d'un voyage à Noël au Maroc. Et c'était un voyage franco-marocain entre étudiants. Moi, j'étais plus étudiante, j'étais jeune chercheuse, entre étudiants français et étudiants marocains. Et c'était très instructif parce qu'on a traversé tout le pays de façon relativement officielle. On a rencontré les caïds, les cadis, etc. Et j'ai découvert le Maroc comme ça aussi. Donc tout était bon pour moi pour connaître le plus possible tout ce qui se passait en Afrique. C'est pour ça que j'ai beaucoup cherché à voyager. Même sans travailler sur les autres pays, je suis allée dans presque tous les pays africains. En 40 ou 50 ans, j'ai eu le temps quand même. Et toutes les occasions étaient bonnes pour y aller, pour observer, pour voir et pour constater à quel point c'est un immense continent, effectivement, très différent, avec plein de cultures différentes. Et que quand on dit l'Afrique, on simplifie d'une façon outrageuse. Ça ne veut pas dire grand-chose.
Alors Catherine Kokri-Vidrovic, toujours dans ses premiers voyages, il va y avoir aussi quelque chose, c'est la rencontre avec Gaston Guibert. Alors vous serez plus tard connu pour votre travail sur le rapport Brazza, j'aimerais le conserver pour plus tard, mais vous dites tout est source dans ces voyages. Vous
oui,
découvrez
absolument.
Que vraiment, voilà. Et alors, par exemple, lors de vos premiers voyages au Gabon, vous rencontrez un très vieux gouverneur, Gaston Guibert, qui avait officié au Gabon...
En 1906.
D'accord, en 1906. Vous le rencontrez dans un petit avion.
Oui, alors je rencontre d'abord dans un salon à Libreville, mais il ne m'a pas pris au sérieux, parce que c'était un très vieux monsieur qui était conseiller du président Léon Mba, et moi j'avais 29 ans et j'avais l'air d'une gamine. Et puis la chance a fait qu'on s'est rencontrés dans une ville de l'intérieur, une petite ville de l'intérieur. Moi j'étais toute seule avec mon sac à dos, comme je vous l'ai dit, et lui venait d'avoir un petit accident de petit avion dans lequel... Alors là, il m'a pris au sérieux. Il s'est dit, oui, effectivement, c'est une chercheuse. Et il m'a dit, vous travaillez sur les sociétés concessionnaires, c'est-à-dire ces grandes sociétés, effectivement, qui étaient mon sujet de recherche thèse d'État. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose sur la Mpoko? Alors, j'ai dit, ben non. Ben, si vous trouvez quelque chose, je pourrais vous en raconter. Il ne m'a pas dit plus. Alors, je suis rentré en France, je suis allé aux archives et j'ai vu des rayonnages énormes sur la Mpoko. Et j'ai découvert un scandale absolument épouvantable qu'il avait détecté, lui, comme tout jeune fonctionnaire. C'était son premier poste en 1906, qui s'est soldé finalement par 1500 meurtres probables et 750 sûrs. C'est-à-dire que les administrateurs de la Mpoko faisaient tirer à vue leurs miliciens, surtout gabonais ou congolais, qui ne récoltaient pas le caoutchouc dans la forêt. Énorme scandale, qui a été complètement étouffée. Et c'est là que la rencontre avec Guy Bay, pour une jeune historienne, a été fantastique, parce qu'il m'a raconté justement ce qui n'était pas dans les archives. C'est-à-dire que, d'abord, le directeur de la compagnie avait essayé de l'acheter en lui donnant une grosse enveloppe. Il était honnête, il lui a dit « je n'en veux pas », il a fait son rapport. Et ensuite, le ministre des colonies, en 1907, au moment de son congé, l'a convoqué et lui a dit « jeune homme, vous avez fait un travail extraordinaire, je vous remercie beaucoup, c'est formidable ce que vous avez fait, seulement vous comprenez, dans le projet actuel, c'est quand même très dangereux, vous me donnez votre parole d'honneur que vous n'en parlez pas ». Et ça a été totalement...
étouffé.
Totalement, il a dû sa parole d'honneur. Moi, il m'a dit, d'abord, il ne l'avait pas trahi, parce qu'il ne m'avait pas dit il y a quelque chose. Il m'avait dit, si vous trouvez quelque chose. Puis il m'a dit, bon, c'est 60 ans après, j'estime quand même que c'est en 66, j'estime quand même que là, je peux... Et après coup, j'ai compris qu'en réalité, il est mort peu de temps après, parce que il était très âgé, que... finalement, pour lui, ça avait été une chance. Il a rencontré une jeune historienne et il a pu se décharger de quelque chose qui avait pesé sur toute sa vie parce que il avait justement obéi à ses supérieurs hiérarchiques. Donc ça, c'est les avec des recherches quand même difficiles, c'est des bonheurs pour le chercheur de trouver justement, en l'occurrence, un témoin qui l'avait vécu et qui pouvait le raconter de façon fiable.
En l'espèce, Catherine Kokrivitrovitch, de révéler des vérités.
Oui, absolument.
Qu'on en foutait volontairement.
Et alors j'essaye de faire connaître Gaston Guy Bay parce que cet homme a été absolument remarquable et qui toute sa carrière, parce qu'après j'avais demandé la communication de son dossier personnel, toute sa carrière a été poursuivie par cette histoire qui l'a empêché d'être promu gouverneur général. J'ai trouvé finalement dans le dossier une lettre de René Maran, qui a eu le prix Goncourt dans les années 1920, à Léon Blum, qui était président donc, du Conseil en 1936, lui disant « Monsieur le Président, je voudrais vous recommander cette personne, je peux vous raconter des choses sur lui, c'était ce que je viens de vous dire, qui a fait toute sa carrière en n'étant pas gouverneur à cause de ça. » Et il a été nommé gouverneur à sa retraite. C'était vraiment la conclusion de cette histoire.
Merci Catherine Kokrivitrovitch pour ces souvenirs. Demain, nous vous retrouvons pour parler de vos engagements, de votre traversée, notamment de mai 68, et des relations entre votre conscience et votre travail. Merci encore.
Merci à vous.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jules Crétois avec Catherine Kokrivitrovitch. À voix nue, réalisation Laurent Polleret, prise de son Yves Lehors, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, déjà disponible sur franceculture.fr et l'appli Radio France.